Il est 21h30 à Paris, 20h30 à Kinshasa et à Tunis. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. La mort d'Hassan Nasrallah et des réactions en Tunisie où la guerre entre le Hezbollah et Israël est très suivie. Dans les rues de Tunis, on condamne le décès du chef du mouvement chiite libanais, mais on n'oublie pas son rôle dans la guerre en Syrie. Témoignage à suivre dans quelques instants. L'extradition de Denise Mukendi vers la République démocratique du Congo. L'influenceuse RD congolaise pro-pouvoir avait été arrêtée mardi à Brazzaville. Elle avait reconnu avoir ordonné l'arrestation et le viol de l'opposant Jacky Ndala. Elle a été présentée hier au procureur de Kinshasa et écrouée. Journée de commémoration des 15 ans du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. En juillet dernier, les responsables de cette tuerie ont été jugés et condamnés à de lourdes peines. Un verdict qualifié d'historique au terme d'un procès qui a duré 22 mois. Oui, l'escalade de violence entre le Hezbollah et Israël au Liban et sa résonance en Tunisie. Illustration avec quelques réactions recueillies dans les rues de Tunis après la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué hier lors d'une frappe aérienne de l'armée israélienne sur le quartier général du mouvement chiite libanais. Dans les rues de la capitale tunisienne, les personnes que notre correspondante Amira Souilem a interrogées condamnent la mort du chef du Hezbollah, mais elles n'oublient pas son rôle dans la guerre en Syrie.
En tant que Tunisiens, cette information ne nous fait ni chaud ni froid. Ce qui nous avait touchés, c'était la mort d'Ismaël Haniyeh et les informations en provenance de Gaza.
Oui, c'est vrai qu'Hassan Nasrallah est un grand nom et qu'il est important, mais à part lui, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de mourir. Ce sont de grandes pertes pour leur famille aussi. Il n'y a pas que Nasrallah, voilà ce que je veux dire, moi. Hassan Nasrallah savait qu'il était visé. Il est mort maintenant, mais il sera remplacé. Il y aura d'autres Nasrallah, encore et encore. Ça ne s'arrêtera pas là.
Ce que fait Israël ne se fait pas. Il ne respecte pas les droits de l'homme. L'ONU, qui brandit les droits de l'homme, doit rappeler que la loi existe parce que des gens meurent tous les jours.
Hassan Nasrallah était une grande figure pour les chiites et pour le Hezbollah. C'est un opposant de longue date d'Israël. C'était évident qu'il était une cible pour Israël. Ce qui s'est passé était attendu. On savait qu'ils allaient le tuer.
Témoignage recueilli par Amira Souilem à Tunis. Débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ce samedi à New York. Au nom du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, était à la tribune. Il a notamment abordé les questions de terrorisme dans son pays en reconnaissant que le tout sécuritaire n'est pas la solution.
Aujourd'hui, le groupe terroriste ont été sérieusement affaiblis. Les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. En outre, les actions offensives de nos forces se poursuivent pour démanteler les réseaux terroristes résiduels. Le gouvernement du Mali reste conscient que la réponse uniquement sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés et la fourniture des services sociaux de base à nos braves populations.
Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, RFI a appris ce soir de sources sécuritaires que l'armée béninoise a neutralisé hier vendredi dans la matinée deux terroristes en riposte à une attaque près de sa base de Karimama, à 750 km au nord de Cotonou. Au Bénin toujours, un tanker a achevé ce samedi un chargement de 370 000 barils de brut nigérien à Sémé. Le site où arrive l'oléoduc qui transporte le pétrole nigérien pour l'exportation. Le navire citerne arrivé hier est reparti vers la Malaisie. C'est le troisième tanker que le Bénin autorise, résultat d'un dialogue amorcé en juillet dernier pour décrisper le climat de tension entre les deux pays en froid depuis la chute du président Mohamed Bazoum. Denise Mukendi, l'influenceuse RD congolaise pro-pouvoir, arrêtée mardi à Brazzaville, a été extradée vers son pays. Présentée au procureur de Kinshasa hier, elle a été transférée à la prison centrale de Makala dans la soirée. Elle avait reconnu avoir ordonné l'arrestation et le viol de l'opposant Jacqueline Dalla à l'Agence nationale de renseignement. C'était en 2021. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
Denise Mukendi a été cueillie à Brazzaville par les services de renseignement des deux pays alors qu'elle tentait de s'envoler pour la France. Selon nos informations, le bureau de coordination nationale d'Interpol avait été activé lundi. Celle qui se présente comme influenceuse et défenseuse du pouvoir de Félix Tshisekedi affirme qu'elle ne tentait pas de prendre les larges, c'est en tout cas ce qu'explique son avocat. Elle a été extradée mercredi à Kinshasa où elle a été conduite à l'Agence nationale des renseignements, l'ANR. Ce n'est que vendredi qu'elle a été présentée au procureur. Dans une vidéo d'une partie de sa comparution qui a fuité dans les médias, on entend Denise Mukendi affirmer avoir menti pour provoquer un clash avec Jacqueline Dalla sur les réseaux sociaux. Elle a été placée en détention provisoire dès hier soir à la prison centrale de Makala. Son avocat demande plus de sécurité pour sa cliente en milieu carcéral. Elle risque de nombreuses années d'emprisonnement si ces faits sont avérés et retenus par les juges à l'issue d'un procès. Jeudi dernier, le ministre de la Justice a appelé l'opposant victime à produire tout élément, notamment un certificat établi par un médecin pour l'enquête. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
En Guinée, il y a 15 ans, jour pour jour au moins, 156 personnes ont été tuées, plus d'une centaine de femmes violées au stade de Conakry lors d'un rassemblement de l'opposition violemment réprimé. Le 31 juillet dernier, les responsables de ce massacre du 28 septembre 2009 ont été jugés et condamnés à de lourdes peines au terme d'un procès qui a duré 22 mois. Les victimes ont pu obtenir des mesures de réparation. Pour Maître Drissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains, c'est un verdict hautement symbolique alors que la Guinée commémore ce samedi 28 septembre les 15 ans de cet événement tragique.
Cette décision nous enseigne que quelle que soit notre posture, quel que soit notre rang, la justice peut toujours passer. Cette décision également matérialise clairement qu'il s'agit de crimes d'État et que c'est les hautes autorités de la Guinée et de l'époque qui sont à la base des événements qui se sont produits au stade du 28 septembre. Cette journée du 28 septembre, elle est importante pour ne pas oublier de nous souvenir de la douleur de ces victimes-là qui ont souffert dans leur chair, où beaucoup leur vie a été totalement gâchée psychologiquement. Elles sont marquées à vie. Certains ont perdu leur foyer. Et puis, il y a d'autres personnes qui vivent actuellement avec des balles encore dans le corps. Il y a des blessés, il y a des handicapés. Et c'est pourquoi nous pensons que le fonds d'indemnisation devrait rapidement être déployé pour permettre quand même de les soulager, même si ça ne peut pas totalement réparer les souffrances qu'elles ont vécues ou qu'elles continuent de vivre.
Propos recueillis par Christina Okello. Au moins 9 morts et 48 disparus dans le naufrage d'un bateau de candidats à l'exil au large de l'archipel des Canaries. Selon les secours maritimes espagnols, 84 personnes étaient présentes sur le bateau. 27 personnes ont pu être secourues. Début septembre, le naufrage d'un bateau tentant de rejoindre l'Europe avait déjà fait au moins 39 morts au large du Sénégal. Un nouveau drame sur la route dite de l'Atlantique entre l'Afrique et l'Europe, où des milliers de personnes ont perdu la vie ces dernières années. Direction Abidjan pour la Coupe du Monde de Maracana, discipline dérivée du football. Hier, en match d'ouverture, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a battu la Belgique au tir au but. Prochain adversaire de la Belgique, le Cameroun, emmené par le très expérimenté Gervais Guiboto. Son portrait est signé Molamine Sissavané.
Ancien joueur de football classique, Gervais Guiboto a roulé sa bosse dans cette discipline initiale. Du Cameroun au Gabon, puis en Guinée et en Angola, et enfin retour au Bercail.
Du retour au Cameroun, j'ai fait de la première division 7 ans. Je me rappelle, j'étais à la fin de ma carrière. Certains amis m'ont parlé du Maracana et dès que j'ai mis mon pied, je ne suis plus sorti.
Gervais Guiboto retrouve une seconde carrière sportive dans le Maracana où ses compétences techniques le distinguent.
Le Maracana est très accueillant. Quand on joue du Maracana, c'est vraiment très beau. C'est cette particularité-là qui m'a permis de venir dans le Maracana parce que c'est une discipline où il faut vraiment de la technique, de l'intelligence dans le jeu.
Mais aussi une capacité d'adaptation pour les transfuges de sa trempe. Édouard Penda, journaliste sportif camerounais, a suivi la reconversion de Guiboto.
Parmi ceux qui se distinguaient, donc, il y a Gervais par une adaptation rapide d'assimilation des lois du jeu de Maracana. C'est-à-dire que vous soyez le meilleur joueur du foot à 11, lorsque vous n'assimilez pas rapidement les lois de jeu du Maracana, on ne fait pas de vous un des joueurs expérimentés. Donc voilà la qualité majeure de Gervais.
Une qualité dont son équipe aura besoin pour sa première sortie face à la Belgique, ce dimanche. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
RFI à Abidjan, où il est actuellement 19h40.